carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
L'enregistrement que vous allez écouter a été réalisé le 15 mai 2009 entre deux répétitions au Théâtre du Châtelet qui accueille pour la première fois à Paris l'opéra d'Alfano, Cyrano de Bergerac, d'après la célèbre pièce d'Edmond Rostand. Pour nous chanter l'histoire de ce héros débordant de passion et d'amour, rien moins que Placido Domingo dans le rôle-titre, aux côtés de Samir Pirgou dans le rôle de Christian et la soprano Nathalie Manfrino dans celui de Roxane. Trois personnages rêvant d'amour éternel dont l'histoire se situe à Paris. Nathalie Manfrino, jeune soprano, lève le voile sur cet opéra présenté le 19, le 22, 25, 28 et 31 mai au Châtelet. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Nathalie Manfrino. Merci de nous recevoir entre deux répétitions au Théâtre du Châtelet.
C'est moi qui vous remercie.
Où vous chantez le rôle de Roxane dans l'opéra de Franco Alfano, Cyrano de Bergerac, pour lequel le librettiste Henri Quint a adapté en 1935 la fameuse pièce d'Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac, monument de la mémoire et de la langue française. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez chanté en répétition ?
Alors aujourd'hui, on a commencé du début de Cyrano, donc le premier acte. Et moi, je chante dans le deuxième acte, donc le premier duo en fait avec Cyrano, qui est le premier vrai contact entre Roxane et Cyrano, où elle vient lui demander la faveur de protéger Christian, le baron de Neuvillette, auquel elle n'a jamais parlé, mais elle est tombée amoureuse de lui. Donc voilà, c'était le premier duo aujourd'hui et ce soir, on continue.
Roxane aime Christian à travers Cyrano. Comment la composition musicale d'Alfano sert votre personnage ?
Ah, question difficile. Alors déjà, je vais peut-être répondre pour Christian et Cyrano.
Oui.
Puisqu'on m'a posé la question de savoir, mais finalement, Cyrano est un baryton, ou est un basse-baryton, et Christian évidemment un ténor. Je dis, mais non, pas du tout. Justement, ce sont deux ténors. Oh, mais pourquoi ? C'est bizarre. Moi, j'aurais plutôt pensé à un baryton. Je dis, mais non. Je dis, justement, la scène du balcon n'aurait plus lieu d'être si Alfano avait pensé à deux voix différentes. C'est là où il a eu l'intelligence de dire, non, il va falloir deux ténors, puisque la scène du balcon, pour que Roxane se méprenne, il faut que ce soit la même voix. Donc, la voix du chanteur ténor, donc deux ténors. Donc, en l'occurrence, je peux parler de mes deux collègues, qui sont deux ténors, qui sont en effet, qui font partie du triangle amoureux. Moi, par rapport à ce triangle amoureux, j'ai un personnage de Roxane, en tout cas mon rôle chanté, est très bien écrit, très lyrique et avec un peu de préciosité dans la façon de chanter, c'est-à-dire dans les phrases, on a certains portamenti, donc la voix qui monte un petit peu comme ça en portée et qui sont de moins en moins utilisées ou qui ont été bien moins utilisées dans l'opéra français. Et Alfano, à cette époque-là, a voulu les remettre pour redonner un caractère, voilà, pour redonner un caractère précieux à Roxane quand elle chante. J'avais travaillé le rôle avec Simone Féjar, une grande dame.
C'est pas la première fois que vous chantez Roxane ?
Non, c'est pas la première fois. Et j'avais travaillé en 2002 avec Simone Féjar. Et on avait en fait la pièce à côté de nous. Et on essayait de comprendre à chaque fois pourquoi Alfano voilà, avait fait ce choix. Et il y avait par exemple des portamenti. Je disais à Simone Féjar, je dis, mais c'est un peu démodé. Elle me dit, non, mais là, il est vraiment mis parce qu'à ce moment-là, elle est très précieuse. Elle demande quelque chose et elle en fait 10 000 et il faut les garder. C'était très intéressant. C'était vraiment très, très intéressant.
Thank you. jouer ce triangle amoureux avec Placido Domingo dans le rôle de Cyrano et Samir Perju dans le rôle de Christian, est-il pour vous une chance ou un privilège? Comment vous définissez cette expérience?
Oh là là, les deux. Les deux, vraiment, c'est même un rêve. Je suis très très consciente de la chance que j'ai de chanter ce rôle de Roxane avec ce monstre sacré qui est Monsieur Placido Domingo. Enfin, moi, en tant qu'étudiante, que jeune chanteuse, j'ai tellement vu, j'avais toutes les vidéos de Placido chez moi, tous les disques. Et quand je pense à tous les grands chanteurs avec qui il a chanté, toutes les grandes scènes, pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire et d'exceptionnel d'avoir l'opportunité aussi, moi, en tant que jeune chanteuse, jeune soprano française, de pouvoir chanter ce rôle sur scène avec Placido Domingo. Ça, c'est exceptionnel. Samir Perju, c'est une grande première. Je n'avais jamais chanté avec lui. Il est charmant. C'est un ténor qui est très en vogue en ce moment et qui a beaucoup de qualités et qui est un très bon collègue. Donc, c'est très, très sympa.
Comment s'harmonisent vos voix? Quel plaisir avez-vous eu à jouer ensemble?
Alors, le plaisir, de toute façon, il est toujours là à partir du moment où on est sur le plateau et qu'on est sur scène. Alors, le plaisir, c'est vrai que les harmoniques de la voix, c'est quelque chose de très spécial. Peu de gens m'en parlent d'ailleurs, c'est très intéressant que vous me posiez cette question. En effet, il y a certaines harmoniques qui marchent mieux ensemble. Et apparemment, en tout cas pour ce qui me concerne, ma voix de soprano lyrique et la voix de grand ténor lyrique, presque ténor dramatique de Monsieur Domingo, se marient très bien. Et apparemment, tout est très crédible, tout est très joli. Et les harmoniques, en effet, quand j'ai le duo avec lui et on a des aigus ensemble, c'est impressionnant. C'est très impressionnant, c'est très agréable et c'est en même temps très impressionnant parce que je reste très émue et humble devant ce personnage mythique, en tout cas.
Qu'apprenez-vous alors les uns des autres ?
Alors écoutez, de toute façon, moi je pense qu'on apprend en permanence, surtout sur l'émotion, les collègues, de voir comment ils jouent, comment ils abordent le personnage, ils interprètent le personnage. Et en effet, comme moi j'avais chanté dans une autre production auparavant, c'est extrêmement intéressant de voir la différence. Oui. C'est très curieux au début parce qu'on a tellement l'habitude d'avoir fait, parce que la production que j'avais faite, je l'avais reprise trois fois avec Roberto Alagna, et c'était donc David Alagna qui avait fait la mise en scène.
À Montpellier, c'est ça ?
À Montpellier, on avait fait la comédie au Corum et on l'a repris à Monte Carlo. Et c'est vrai que, je dois dire, c'est très différent. Et quand je suis arrivée ici, j'avais tellement dans ma mémoire tout ce que nous avions fait que j'étais un peu décontenancée. Maintenant, plus du tout, puisque en fait, on s'approprie à chaque fois une nouvelle production, on s'approprie à chaque fois le rôle. Et les collègues, à partir du moment où on a passé quelques jours et qu'on apprend à se connaître, on voit tout à fait où ils veulent aller. Et là, je trouve ça très homogène. Je trouve que c'est très émouvant, que tout le monde est très ému, très pris par la pièce. Je pense qu'on se sent très responsable que ce Cyrano, ce soit la première fois qu'il soit donné à Paris.
Oui, ça c'est...
Et on voudrait lui redonner ses lettres de noblesse. Déjà, nous, à l'époque, en 2002-2003, on voulait redonner les lettres de noblesse au Cyrano de Bergerac de Franco Alfano, qui est quand même très proche de la pièce d'Edmond Rostand et qui est pour nous un tel patrimoine. Mmh. Moi, quand on m'a dit que l'opéra existait, je me suis dit, mais mon Dieu, c'est incroyable qu'on ne l'ait pas donné avant, mais comment se peut-il que ce livret qui doit être absolument fabuleux, moi je suis déjà amoureuse de la pièce, je me suis dit, mais à chanter, ça doit être extraordinaire.
Alors, quelle nouvelle Roxane est donc née de cette collaboration nouvelle pour vous?
Oui.
Avec Placido Domingo.
Tout à fait, et avant avec Roberto Alagna. Voilà. Alors déjà, c'est vrai qu'il y a 6 ans qui sont passés.
Oui.
Entre-temps, j'ai chanté beaucoup de premiers rôles, j'ai chanté beaucoup de grandes héroïnes françaises. Donc, évidemment, j'ai fait mes armes beaucoup plus sur scène, puisque je ne débutais pas, mais presque, on va dire, dans le Cyrano de 2003. Alors, je voyais Roxane peut-être... j'étais moins indulgente avec elle.
Ah,
j'étais moins
intéressant.
Oui, beaucoup moins indulgente. Je la comprenais un petit peu moins. Je l'acceptais, je la respectais pour ce qu'elle... C'est-à-dire que je me l'approprie vraiment, le personnage. Donc, je dois adhérer à tout ce qu'elle fait. Mais j'étais moins indulgente. Et vraiment... À la fin, je trouvais ça tellement triste, je lui en voulais quand même quelque part. Aujourd'hui, voilà, avec peut-être plus de maturité, la vie faisant que voilà, on a d'autres expériences, je trouve finalement que le personnage est encore plus intéressant que ce que je pensais. Et je la trouve assez magnifique quand elle arrive à Arras et qu'elle va avouer qu'elle veut absolument, elle est partie à Arras pour dire à son amour, à Christian, qu'elle n'a vu qu'une fois, enfin, disons qu'il y a eu ce mariage, mais qu'ils se sont très peu vus, qu'elle aimerait l'est. Et je trouve que c'est quelque chose de tellement fort et de puissant de se dégager des apparences. Je pense que dans n'importe quel monde, que ce soit le monde moderne ou le monde de l'époque, c'était quand même une grande force, une grande puissance de la part de Roxane de pouvoir dire ça. Et elle était sincère.
Vous trouvez que c'est un rôle moderne ?
Oui, tout à fait, tout à fait. Et encore, je vous dirais aujourd'hui, moderne, je ne connais pas d'autres héroïnes ou d'autres personnages, bien sûr au cinéma, mais qui sont capables de dire ça, de dire qu'en effet, elle renonce à tout. À partir du moment où elle perd son amour, elle se retire au couvent pendant 15 ans. Et quand elle comprend que le vrai amour était Cyrano, mais tout de suite, elle change et elle n'a pas peur de lui avouer aussi à lui, mais que c'était lui qu'elle a toujours aimé en fait et que c'était terrible. Je trouve ça très beau. Je trouve ça très beau de dégager des apparences, de pouvoir aimer quelqu'un en lui disant, voilà, même si tu étais laid, défiguré, estropié, handicapé, de toute façon, je t'aime tellement que ça ne changerait rien. C'est très puissant, je trouve.
Qu'est-ce que vous avez pensé du texte français, justement, du travail du librettiste? Est-ce que ça présente des difficultés particulières là, au niveau du chant?
Ah oui, toujours, de toute façon.
Vous êtes un peu aussi une spécialiste de cette
opéra
française.
Oui, le chant français, je vous remercie. Mais je suis très fière si on me dit ça. J'essaye en tout cas. C'est vrai que j'ai commencé mes études beaucoup par la mélodie. J'ai énormément travaillé les mélodies. Et ma première prise de rôle était Debussy, était Pélias et Mélisande. Et par la suite, je pense que finalement, on a beaucoup pensé à moi pour les opéras français. J'essaye d'avoir une diction le plus proche possible. Alors c'est très difficile parce que la voix de femme, la voix de soprano, on perd, quoi qu'il arrive, les mots. Quand on passe une certaine hauteur de son, c'est pas du tout comme la voix d'homme. C'est-à-dire que la voix d'homme, la voix de baryton, moi je me suis énormément inspirée des voix d'homme pour pouvoir essayer de retrouver cette diction, même dans la voix de soprano et la voix de femme. Alors il y a un moment, évidemment, on la perd, puisque dans l'opéra français, je dois dire que c'est pas la langue la mieux écrite pour le chant et pour l'opéra. C'est une langue très noble, très belle. Moi je la trouve très très noble. J'adore chanter l'opéra français parce que je trouve qu'il y a une noblesse dans la façon de dire les mots que peut-être d'autres langues n'ont pas. Mais par contre, on aurait tendance avec le français à être un petit peu plus dans le côté strident, soit un peu moins rond, moins, on a moins l'italianita.
Plus aigu.
C'est un petit peu plus aigu. Voilà, le fait de, voilà, les mots français, tout à fait, non, mais vous avez raison, les mots français font qu'on est moins dans la rondeur. Comme d'ailleurs la langue parlée italienne est très ronde, même le russe, quand on entend parler le russe, c'est très chaud, c'est très profond, on a l'impression qu'ils ont tous des patates dans la bouche, alors que nous, pas du tout. Donc, moi, j'essaie de retrouver quand même cette rondeur tout en essayant de garder le texte. Pour ce qui nous concerne, en l'occurrence, là, ce Cyrano Bergerac et le librettiste, je trouve qu'il a fait un travail très, 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 très intéressant et très beau et très respectueux d'Edmond Rostand. J'avais très peur, en effet, quand j'ai su que voilà, c'était un opéra qu'on n'avait jamais donné. Je me suis dit, mais peut-être qu'on ne l'a jamais été donné, puisque...
Il y a une raison.
Il y a une raison. Peut-être qu'Edmond Rostand n'est pas du tout respecté. Alors oui, il y a des coupes. Bien sûr, il y a des coupes, puisque je pense que le rôle du ténor...
La tirade gênée
n'est pas. Mais nous avons la balade du duel, qui est très jolie, qui est vraiment... très bien écrite. Pourquoi il n'y a pas la tirade aînée et pourquoi il y a des coupures? Parce que je pense que le ténor, Cyrano, ce serait juste inchantable. Déjà, l'acteur sur scène, moi j'ai vu beaucoup de fois Cyrano sur scène, au théâtre, et je me souviens de Jean-Paul Belmondo, de Jean Pia, ou de grands acteurs comme ça, qui étaient vraiment en transpiration, qui se donnaient à fond, on voyait que c'était qu'ils n'en pouvaient plus presque. Alors, ils tenaient le coup, mais chanter, c'est autre chose. Parce qu'on a quand même 80 musiciens dans la fosse.
On les entend.
Voilà, on n'a pas de micro, c'est que l'acoustique naturelle. Et c'est quand même, avec un petit entracte de 20 minutes, 3 heures, 3 heures et demie, parfois 4 heures de chant non-stop. Ce qui fait que donc, ils ont eu l'intelligence de couper dans le texte de Rostand pour que le rôle du ténor soit tenable. Alors, pour moi, j'ai de la chance parce que finalement, mon rôle devient plus important que dans la pièce.
Parce que par rapport à la pièce de théâtre, effectivement, l'intrigue s'est resserrée sur le trio.
Oui.
C'est surtout ça qu'on a dans l'opéra d'Alfano.
Tout à fait. Et Roxane est beaucoup plus présente et importante. Alors, évidemment, moi, je suis très contente.
Donc, pas de difficulté particulière pour cette langue que vous aimez particulièrement
non,
rendre
justement chanter. Je dirais pas de difficulté. Pas de difficulté. Et au contraire, la beauté de cette langue sublimée
par
la musique d'Alfano et Rostand. Rostand, de toute façon.
Vous retrouvez le Rostand.
C'est magnifique, la scène du balcon, le final, quand Cyrano lui dit tous mes appels d'amour, je voulais, j'étais en tout.
Quelle est la scène que vous préférez chanter, celle du balcon, j'imagine?
Ces deux scènes-là. La scène du balcon et le final, quand elle lui dit c'était vous, les lettres c'était vous. C'est l'émotion est tellement forte dans ces deux scènes que c'est même dur et nous on ne doit pas se laisser prendre par l'émotion sinon on a la gorge se serre et on n'arrive plus à chanter.
Alors cette musique d'Alfano qui était un Italien particulièrement francophone sur un sujet, une histoire que les Français se sont largement approprié, vous êtes aussi d'un point de vue personnel particulièrement au carrefour de ces deux cultures puisque votre père est italien et votre mère est française. Alors, je me suis dit, quand j'ai appris ça en préparant l'interview, je me suis dit, mais ce rôle est fait pour elle.
Peut-être qu'à l'époque, ils ont pensé aussi ça quand M. René Koering m'a donné le rôle.
Mais comment, justement, vous avez peut-être utilisé cette double culture pour comprendre ces sonorités?
Tout à fait. Alors, en effet, j'ai vraiment cette double culture que je...
De la langue et de la musique.
De la langue et de la musique, tout à fait.
C'est quelque chose qui vous parle, je suppose.
Complètement, complètement. Et en plus, je vous dirais, pour ajouter à ça, ma maman est suisse, espagnole, française. Donc, il y a beaucoup de mélanges et j'adore ça. Je trouve ça formidable puisque j'ai beaucoup été avec mes grands-mères qui... Du coup, évidemment, j'avais toutes ces cultures. Alors, pour ce qui nous concerne, en tout cas, la culture italienne et la culture française, oui, dans cet opéra, Alfano donc, avait sa maman aussi française.
Parce que lui aussi était un grand francophile.
Voilà, et il s'est énormément inspiré de Debussy, de Massenet, de Gounod. Et en même temps, il y a énormément de verisme et d'italianita, c'est un terme que nous utilisons. Ce qui fait que ça devient un grand opéra français dans la tradition de grand opéra italien. Alors, évidemment, moi, je trouve que le mélange est magnifique. Je suis peut-être une convaincue et j'adore cet ouvrage. Je trouve qu'il est magnifique et qu'il gagne à être connu et qu'il est en train de vraiment sortir de l'oubli puisqu'il a été donné un petit peu partout. Le mélange est réussi. Alors, peut-être que justement, ce mélange, Alfano pouvait se le permettre puisque ça devait vraiment faire partie de son patrimoine d'avoir ce Cyrano. Et en même temps, il a mis énormément d'italianita dans cet opéra, ce qui fait qu'en même temps, on a des passages d'orchestre assez incroyables. Pour nous, c'est difficile, évidemment, puisque la voix est tout le temps... vraiment demandé. Et moi, évidemment, je trouve que c'était un rôle, déjà en tant qu'actrice, si on me l'avait demandé à le jouer, j'aurais adoré. Et là, d'être une des premières à le chanter sur scène et à pouvoir donner toute mon interprétation à 100% sans avoir les fantômes du passé, que je respecte énormément, que j'adore et que j'écoute. Je suis tout le temps en recherche de voir tous ces enregistrements de Maria Callas, de Tebaldi et de mes collègues d'aujourd'hui, bien sûr. Mais je veux dire, sur ce rôle-là, je n'avais pas de référence. C'était très difficile et en même temps, c'était passionnant.
C'est peut-être celui où vous vous révélez le plus aussi.
Peut-être. Puisque, en effet, j'ai eu cette chance de ne pas avoir...
D'être libre.
Voilà, de ne pas avoir toutes ces contraintes et d'être très libre. Et je me disais à chaque fois, est-ce que je fais bien? Est-ce que j'interprète bien? Et en même temps, je me disais, mais de toute façon, j'y mets tellement tout mon cœur, toute mon âme et ma sincérité qu'on adhérera ou on n'adhérera pas. Mais en tout cas, moi, je sais que j'aurai été à 100% et que ce sera ma version. Et peut-être une version de référence, j'en serais très, très fière. Et j'essaye de m'améliorer à chaque fois. Et si on me dit qu'ici, on a été ému au Châtelet, ce sera la plus belle des récompenses.
Pour dire un mot de la mise en scène, l'auteur est toujours plus fort que l'interprète, dit Pekrika Ionesco. Alors, qu'en pensez-vous, Nathalie Manfrino? Parlons un petit peu de la mise en scène.
Pour parler de l'auteur, je pense qu'en effet, nous ne sommes que des interprètes. Mais une interprétation peut faire référence et peut faire basculer tout un ouvrage ou tout un opéra dans la plus grande émotion ou peut-être dans le plus grand ratage possible. Donc nous avons notre part de responsabilité qui est énorme. Alors après, bien sûr, nous restons des interprètes. Pour moi, la chose la plus sublime, ce serait de composer un opéra, d'écrire.
Vous aimeriez un jour faire ça?
J'en aurais pas la capacité ou les qualités, mais j'aurais adoré. J'aurais adoré avoir suffisamment de connaissances musicales pour pouvoir composer un opéra. En tout cas, déjà, ce genre d'ouvrage, en tout cas, ce Cyrano, le fait d'avoir été une des premières, pour moi, voilà, c'est plus fort que juste une xème interprétation de Juliette ou de Marguerite. Après, j'adore, je trouve ça magnifique parce que je pense qu'on peut chaque fois mettre quelque chose de différent. Mais oui, Pekrika, de toute façon, a raison. L'auteur reste le plus important. Après, le metteur en scène a un rôle...
Alors, cette mise en scène-là,
qu'est-ce que vous en pensez? Pekrika est quelqu'un de charmant, de très, très affable, qui a beaucoup d'humour, qui est souvent sur un mode comique, ce qui est assez surprenant dans cet ouvrage, puisque finalement, moi, je m'attends... Enfin, c'est vrai que je suis quelqu'un qui adore ce qui est tragique, dramatique, et finalement, l'opéra...
Et puis, l'opéra, c'est ça.
Tout le temps ça. Et heureusement, parce qu'à chaque fois, je vois quand ma mère vient à l'opéra, elle me dit « Oh, tu vas encore mourir sur scène cette fois ?» J'ai dit « Oui, maman. » Alors, là, c'est pas moi qui meurs, c'est ce pauvre Cyrano. Elle meurt, peut-être son âme meurt, en tout cas, cette Roxane, dans cet ouvrage. Mais pour revenir à ce charmant Pekrika, oui, moi j'étais restée sur quelque chose de très émouvant dans ce Cyrano. Lui a vu le côté peut-être plus comique, plus bouffe de cet ouvrage. Et finalement, il l'était, Cyrano aussi, puisqu'il arrivait avec cette verve, avec un mot à retourner une situation. Alors Pekrika, il a vraiment ressorti cet aspect-là de la pièce, qui est très sympa. Et écoutez, c'est une version très différente, en tout cas, que la version de 2003. Et cette version se tient tout à fait. Et je pense que le public sera très content.
Et comment vous vous sentez à l'aise dans les costumes créés par Lily
Kentala? Ils sont magnifiques. Ils sont magnifiques. Écoutez,
alors,
l'équipe...
décrivez-nous votre costume, qu'on rêve un peu avant, avant la répétition.
Écoutez,
avant la première.
Cette mode était tellement belle. Alors, écoutez, l'équipe du Châtelet, c'est des petites fées, des petites abeilles qui travaillent dans les toits du Châtelet. C'est magnifique. Alors, j'aurai un très, très joli costume bleu pâle, avec un peu de passementerie argentée. J'ai une très belle cape en taffetas. Tout est en soie, taffetas de soie. C'est très, très bien fait, très bien cousu. On respecte l'époque en ayant un petit côté moderne qui marche très, très bien. Vraiment, ce sera magnifique.
Alors, pour terminer, quels sont vos projets, Nathalie Montfrino?
Plein de très jolis projets. Écoutez, je vais chanter au Festival de Saint-Denis pour la première fois le Stabat Mater de Rossini. Avant ça, je vais partir à Séville pour chanter pour la première fois Leila des Pêcheurs de Perles.
Ce sera quand?
Ce sera au mois de juin, ce sera le 6 juin. Le Stabat Mater, ce sera le 11 et le 12 juin.
Mais ça n'arrête pas.
Au Festival Saint-Denis. Après ça, je fais l'ouverture du Festival d'Antibes le 2 juillet. Et puis, écoutez, les prochains grands projets, ce sera surtout d'enregistrer un nouveau disque, après le premier disque d'air d'opéra français. Ce sera sûrement un disque d'air italien, mais un peu surprenant, qui me ressemblera énormément, puisque ce sera... un mélange de français, d'italien et de par rapport à mes origines qui me ressemblera énormément. Et très gros projet de chanter Mireille à Orange l'été 2010. Prise de rôle dans ce lieu mythique qui est Orange, dans lequel je n'ai jamais chanté.
Alors écoutez, on ne peut que vous souhaiter une très bonne et très belle chance.
J'espère, oui, je
très
prends.
Grande.
On dit je prends.
Voilà.
Merci.
À bientôt. Merci beaucoup Nathalie Montfrino.
Au revoir.